Parce que chaque expérience et chaque récit peut nous enrichir, ce podcast présente des expériences de vie singulières qui permettent d'en apprendre plus sur soi et sur les autres. En tête à tête, un podcast réalisé par Agathe Sutter laisse la parole à ceux qui en ont besoin. Ils ont accepté de nous ouvrir la porte de leur intimité, nous livrant un petit morceau de leur vécu.
Bonjour Nora.
Bonjour.
Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ?
Alors moi je m'appelle Nora, j'ai 26 ans. Je suis membre du dispositif James et je veux entrer à l'école de travail social l'année prochaine.
Okay. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est le dispositif James ?
Alors le dispo James, c'est un dispositif porté par la Maison des Ados qui permet à des jeunes de 18 à 29 ans, sans emploi, sans formation, de un peu développer leur projet professionnel et d'aller vers cette voie.
Merci. Et du coup, on est là pour parler de plusieurs choses, dont le fait de réussir à trouver sa place. Et est-ce que tu peux un peu... du coup, expliquer pourquoi tu t'avais envie de parler de ce sujet-là en particulier ?
Ouais, parce que déjà, j'ai un rapport aux gens assez compliqué. C'est-à-dire que j'aime bien les gens, mais en même temps, j'ai peur d'eux. Et en même temps, il y a toujours un mur entre moi et les gens qui m'empêche de pleinement profiter du temps que je passe avec les gens. Et il y a aussi mon rapport avec mon identité qui a été très compliqué au cours de ma vie. Okay. C'est-à-dire que... je savais pas trop qui j'étais, je savais pas quelle était ma place. Voilà.
À quel moment tu t'es plus senti à ta place ? Est-ce qu'il y a eu un moment particulier où ça t'a, où t'as pris conscience de ça, ou alors ça a toujours été un peu sous-jacent et...
Quand j'étais enfant, j'étais déjà très timide, mais j'avais un rôle social, c'est-à-dire que j'étais l'enfant intelligent de la famille. Et en fait, quand j'ai été déscolarisé en quatrième, en fait, j'ai perdu ce rôle. Parce que pour moi, on m'avait toujours dit que fallait que je fasse des études, que j'irais loin, que fallait que j'aie plein de diplômes. Et donc, j'ai associé ça à l'intelligence. Et du coup, quand j'ai été déscolarisé et que j'ai échoué quelque part à l'école, j'ai un peu perdu ce rôle. Donc, quelque part, j'ai perdu ma place. Et j'ai été pas mal isolé à ce moment-là. Et j'ai développé une phobie sociale.
Ça s'est manifesté comment pour toi, cette phobie sociale ? Ça t'a... de quelle manière tu l'as vécu ? Qu'est-ce que tu as ressenti ?
Ah, je suis resté complètement isolé. En fait, pendant cette période-là de mon adolescence, j'étais comme un fantôme. Même administrativement, j'avais pas de carte d'identité, rien. J'avais pas de carte vitale, je sortais plus, je voyais plus mes amis. Et du coup, à un moment, je me suis mis à développer une haine contre les gens. Je suis devenu misanthrope. Et donc, je détestais les gens, j'étais complètement cynique et je voulais qu'on me laisse dans mon coin. Mais c'était plutôt en réactance au fait que je trouvais pas ma place, justement. Et du coup, j'ai été très en colère contre ça. Et donc, ça a duré 3 à 4 ans. Et à un moment, j'en ai eu marre d'être toute seule parce que c'est pas humain, quoi. Et ça coïncidait au fait que j'ai commencé à me politiser sur Internet, au fait que j'ai commencé à fréquenter des espaces LGBT sur Internet aussi. Et donc, j'ai pu moins m'isoler à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me sentir appartenir à un groupe humain, parce que souvent, quand on est jeune, le sentiment d'appartenance est très important, parce que c'est important pour se construire, pour savoir qui on veut être, qui on est. Et moi, j'ai commencé à avoir ça vers 17, 18 ans, quoi, donc assez tardivement. Voilà, et en fait, il y a toujours un risque quand on entre dans une nouvelle communauté, c'est qu'on se radicalise. C'est un peu le principe que quand tu découvres une religion, souvent t'essayes d'être plus rigoureux que les autres, et du coup il y a le risque que tu te radicalises. Moi il y avait un peu ce risque là chez moi.
Est-ce que t'es allé trop loin dans le truc
Non, c'était plus des paroles, des idées radicales, mais je suis jamais allé vers les actes. Mais j'avais quand même, à cette époque-là, des idées assez radicales, assez dangereuses même. Mais c'est parce que je voulais me faire accepter, en fait.
Et voilà. Quand tu parles de ça, du coup, c'était dans un milieu, tu parles de ça par rapport à la religion ou par rapport au milieu LGBT ?
Plutôt politique. Okay, je me suis politisé à gauche. Alors, faut savoir que Là, j'essaie de revenir vers une pratique religieuse juive. Mmh. Et à une époque, j'étais complètement athée. C'est-à-dire que je détestais les personnes croyantes, voilà. Voilà. Parce que j'avais aussi un profond mal-être. Et du coup, bah, avoir la haine, quelque part, ça m'aidait à me détourner de ce mal-être. Il y a un concept psychologique qui s'appelle la haine de soi juive. Spielberg en a parlé d'ailleurs. Et ça veut dire que, bah, en fait, tu détestes être juif. Et ça s'explique parce que quand il y a des clichés omniprésents, des agressions, tout ça, oui, t'as pas envie. Et donc, j'ai eu ça, finalement. Et j'ai eu un peu la haine de moi-même pendant très longtemps même. Et du coup, j'avais cette haine pour les religions, particulièrement pour le judaïsme. Et maintenant j'ai eu le temps de... J'ai eu le temps de dépasser ça et finalement de revenir à un rapport plus apaisé avec ça.
À quel moment tu t'es dit que t'allais trop loin et qu'est-ce que t'as fait pour retrouver ce rapport qui est plus sain par rapport à la religion et à ce que tu pensais de tout ça?
Alors, en misant le moins. C'est-à-dire que c'était il y a peut-être 3 ans. J'ai décidé de un peu sortir d'Internet, un peu sortir de chez moi et de me remettre à fréquenter des espaces, notamment l'espace LGBT de Strasbourg. Et là, en fait, ma haine des gens s'est transformée en peur. Parce que ça fait longtemps que j'avais pas été en contact avec des personnes. Du coup, ma phobie sociale, elle était là. Et donc, j'avais très peur. Mais en même temps, je voulais vraiment me rapprocher des gens, avoir des amis et tout ça. Et c'est là que j'ai pris conscience que, ouais, le monde, il est pas comme sur Internet et que haïr les gens, ça sert à rien, en fait. Et c'est là que j'ai décidé un peu de changer mon état d'esprit, parce que si je restais haineuse, si je continuais à détester les gens, bah, j'irais pas loin dans la vie, quoi.
C'est jamais bon de s'enfermer trop longtemps, parce qu'après, tu perds un peu contact avec la réalité. Surtout si à côté de ça, t'es beaucoup sur les réseaux sociaux, etc.
Mmh. Ouais.
Mais du coup, comment t'as découvert et comment t'as pris contact avec cette communauté-là de Strasbourg?
Bah, en fait, ils sont sur Internet. Donc, okay. À un moment, je suis allé les rendre visite. C'était peut-être peu avant le Covid. C'était à l'époque où j'avais découvert ma transidentité, du coup. Mm-hmm. Du coup, j'ai décidé d'aller les voir avec ma mère. Ensuite, il y a eu le Covid, donc j'ai pas pu y retourner. Et puis même, j'avais très peur parce que c'était un peu compliqué pour moi de sortir et tout ça.
Mm-hmm.
Mais ouais, j'ai un peu continué. C'était à cette époque, j'étais encore très sur Discord, très sur les réseaux sociaux. Et je pense que ce qui m'a débarrassé définitivement de ma haine des gens, c'est le service civique.
Okay.
J'ai fait un service civique où je m'occupais de personnes handicapées.
Mm-hmm.
Et donc, j'ai pu aller au contact du réel, aller vers des personnes qui étaient très différentes de moi.
Mm-hmm.
Même en termes de handicap, moi j'ai des handicaps, mais très légers. Là, c'était des handicaps assez lourds. Et donc, pour la première fois, j'ai eu des responsabilités. Même j'ai aimé partager ces moments avec ces personnes parce que pour la première fois, je me sentais à ma place. Et donc, ça m'a un peu débarrassé de la colère que j'avais envers les autres et envers moi, en fait. Pour la première fois, j'étais très fier de moi d'arriver à proposer des choses, à proposer un accompagnement. C'était génial.
C'est aussi le fait, du coup, un peu de s'être senti utile et de sentir que tu pouvais apporter de l'aide et du réconfort à des gens qui t'a fait te réconcilier, en gros, avec le fait de se sociabiliser.
Oui. Puis même, il y a une anecdote... Alors, c'était une journée de sensibilisation à l'Europe où moi, la géographie et tout ça, je suis très calé. Et du coup, ça a impressionné les gens. Et avant, j'osais pas trop montrer mes connaissances parce que j'avais très peur qu'on me rejette à cause de ça, parce que l'école, j'ai eu une très mauvaise expérience à l'école. Et là, non, ça a impressionné les gens. Ils m'ont même invité dans l'herbe à boire avec eux. Et je déteste l'alcool. Mais j'ai adoré passer ce moment avec eux, en fait.
Donc, en gros, à l'école, si j'ai bien compris, il y a des gens qui se moquaient de toi. Ouais. Parce que t'étais calé sur certains sujets.
C'est ça. Et puis même parce que normalement, je vais simplifier, mais normalement, une personne assignée garçon, c'est pas censé être fragile, on va dire. Moi, j'étais assez fragile, j'aimais pas me battre, enfin voilà. Et ouais, j'ai très mal vécu. Et pendant très longtemps, j'ai pas montré mon intelligence et tout ça.
Mm-hmm.
Alors que moi, j'aime bien partager mes connaissances, y a pas de souci. Mais là, c'était la première fois les gens se moquaient pas de moi parce que je connaissais le drapeau de Malte, par exemple.
Mm-hmm.
C'est très spécifique. Moi, j'ai une passion pour les drapeaux. Et ouais, ouais, c'est ce service civique, ça m'a permis de, ouais, de m'ouvrir aux autres et de revenir au réel. Mais il y avait quand même toujours ce moment où j'étais toujours sur les réseaux sociaux, sur Discord et tout ça. Et bah, j'ai essayé quand même de m'impliquer dans des serveurs LGBT, ça me permettait de socialiser. Et là, en fait, il s'est passé un truc qui m'a emmerdé. Comme j'étais trans, bah en fait, je recevais des messages privés de mecs en fait, qui voulaient du sexe. Moi, ça ne m'intéresse pas. Et puis même, je trouve ça assez glauque.
Oui, puis c'est juste hyper déplacé.
Voilà, c'est ça, c'est ça.
J'ai dû demander ça.
Et en fait, c'est là j'ai découvert à ce moment-là que bah, l'identité trans, surtout les personnes trans féminines, sont très sexualisées par beaucoup d'hommes. Ouais. Et donc, j'ai décidé d'arrêter d'y aller.
Tu disais tout à l'heure que tu avais été avec ta maman,
ouais,
dans des cercles de personnes LGBT. Comment tes parents ils ont réagi et quel rôle ils ont joué dans la découverte de ton identité, dans tout ça? Est-ce qu'ils ont bien réagi tout de suite? Est-ce que ça a été compliqué? Est-ce qu'ils ont compris ou pas compris?
Alors mon père il sait pas, et je pense que je lui dirai jamais, parce que mon père il a une conception complètement viriliste de l'éducation. C'est-à-dire que je ne devais pas pleurer carrément, parce que pleurer, c'est pour les filles et tout ça. Et, bah, ça laisse des dégâts hein, quand on est enfant. Voilà. Et puis même, un jour, il m'a pris mon doudou quand j'avais 3 ans. Il m'a dit qu'il fallait que je sois un homme, alors que j'avais 3 ans. Quoi. Ouais. Donc, je ne lui dirai jamais. Ma mère, elle a un... Au début, elle s'y attendait pas. Et forcément, elle n'était pas très habituée. Et elle a essayé de se faire des efforts. Mais du coup, ouais, j'ai... En fait, rien que le fait que ma mère me jette pas dehors, c'est déjà... Voilà, j'ai déjà une grande chance pour ça, parce qu'il y a des jeunes, y a des jeunes qui se découvrent gays ou bi ou trans, et leurs parents les jettent dehors, et ils sont dans la merde. Moi, ma mère, elle m'a jamais jeté dehors, et je remercie. Mais du coup, bah, j'ai dû aller vers la communauté LGBT toute seule, parce que ma mère, à part m'accompagner une ou deux fois, elle n'était pas actrice de ça.
Ouais.
Et du coup, parfois, on parlait. Mais du coup, j'ai deux frères qui ne sont pas très à l'aise avec ça, et du coup, ouais, on n'en parle pas trop à la maison, on n'a pas trop l'occasion. Okay. Et du coup, pendant un moment, en fait, j'ai essayé de m'investir dans la station, enfin de me sentir incluse dans la station. Et ça a marché. Maintenant, c'est devenu comme mon second chez moi. Okay. Et donc, j'allais au groupe de parole trans. Mais à un moment, j'ai décidé d'arrêter d'y aller parce que le groupe de parole trans féminin, il m'a saoulé.
Okay,
parce que il y a des codes de la communauté trans que moi, j'ai pas et que ça me plaît pas d'avoir. C'est la sexualisation.
Ok.
Alors, je sais pas d'où ça vient. Peut-être que comme les personnes transféminines sont très sexualisées par bah, les mecs, elles se réapproprient ça. Moi, ça me met mal à l'aise et ça m'intéresse pas.
Ok, là, c'est pas ton truc. Quoi.
C'est ça. La seule personne avec qui je peux parler de ça, c'est ma copine. Sinon, je parle pas de ça. Et ouais, ça tournait beaucoup. Les discussions tournaient beaucoup autour de ça. Et quand quand tu te sens pas à l'aise avec ça, finalement, t'es de facto exclu du groupe. Ouais. Donc, à un moment, j'en ai marre, j'ai arrêté d'y aller. Mais, bah, en fait, je suis toujours maintenant très attaché à la notion de communauté. Je trouve que c'est cool de se sentir appartenir à un groupe. Alors, c'est un peu plus trivial, mais par exemple, je suis très fan de One Piece. Et rien que l'idée de savoir que des milliers et des milliers de personnes à travers le monde soient fans de One Piece, aiment la même œuvre, les mêmes choses, et ressenti les mêmes choses pour, dans des moments de l'œuvre, moi, ça me réchauffe le cœur, quelque part.
Oui, puis parce ça a un côté un peu rassurant.
C'est aussi. Ça, parce que l'idée que je partage quelque chose avec une autre personne, par exemple aux Philippines, je trouve ça chouette, en fait.
Et est-ce que tu as senti un avant-après, à partir du moment où tu as été voir cette communauté? Est-ce que ça a eu un impact vraiment ou pas du
tout? Il y a eu un impact, ouais, mais pendant très longtemps, j'ai gardé mon anxiété sociale et ma peur panique des gens. Donc. Alors, d'un côté, je voulais aller vers les gens, me faire des amis et tout ça, mais d'autre, j'avais très peur d'eux, de leur jugement, de même dans la station LGBT, il y a beaucoup de personnes neuroatypiques, autistes.
Mm-hmm.
Mais en fait, moi, j'avais très peur qu'on me juge sur ça même, parce que j'ai un rapport avec les gens complètement différent.
Ouais.
Un mélange de crainte, de méfiance, et en même temps, j'ai envie d'être avec eux. C'est très bizarre.
Je pense qu'on a tous un peu ce truc-là, quelque part, mais c'est juste que certaines personnes, c'est un peu plus fort. Mais oui, je pense qu'on a tous ça en nous. Il y a des moments où on se sent très, très à l'aise en public ou avec les autres, et puis il y a des moments où on a juste envie de se cacher et de rester chez nous, quoi.
Mais ouais, j'ai eu beaucoup de mal à m'intégrer dans la communauté trans spécifiquement, parce que dans la communauté trans, il y a cette notion de transition.
Ouais.
C'est-à-dire qu'à un moment, tu vas fatalement changer. Et forcément, moi, comme je reste pour l'instant dans mon apparence masculine et que je transitionne pas parce que je peux pas, forcément, je me sens un peu à côté, quoi.
Ouais.
Donc, c'était un peu compliqué. Mais j'ai... Ça, malgré la phobie sociale, j'ai continué à y aller. Et en fait, j'ai réussi à me re-sociabiliser, à connaître des gens très, très bien, très sympas. Et voilà, c'est... Même si je suis toujours autant sur Internet, je trouve que finalement, aller à la station pour des événements, c'est un peu mieux. Parce que là, tu peux parler à des gens face à face et... Bah, je trouve que c'est assez cool, finalement, quand on a été isolé, de revenir, voilà.
C'est bien que tu aies réussi à dépasser ce truc-là aussi.
Ouais.
Parce que s'il y avait une partie de toi qui avait vraiment très envie d'aller vers les autres, c'est hyper important que tu aies réussi à le faire, quoi.
Ouais. Maintenant, je fais plus trop de crises de panique liées aux gens. La dernière, je crois que c'était en novembre dernier, pour la réouverture de la station, il y avait trop de monde. Et là, j'ai fait une crise de panique. Mais voilà. Mais je joue aussi aux gemmes. Et là, bizarrement, j'ai moins de mal à me sentir incluse au GEM. Parce que y a pas cette notion de transition. Et surtout, c'est pour les personnes diagnostiquées, auto-diagnostiquées ou en questionnement.
Oui, donc c'est beaucoup plus ouvert.
C'est ça. En fait, ils jugent pas, en fait.
Ouais.
Et on peut y aller si on a des questions ou quoi. Bon, je me sens plus incluse dans... Ouais, même dans la communauté autiste, je me sens plus incluse. Mais du coup, maintenant, j'ai un rapport aux communautés un peu moins fort.
C'est radical, ouais.
Parce que c'est passé... il y a eu le 7 octobre et moi alors faut savoir que pendant une période j'ai commencé à expliquer le judaïsme sur Twitter, ça me plaisait beaucoup parce que j'aime bien apprendre des choses aux gens et discuter de ça aux gens et en fait j'ai découvert toute la toxicité des communautés sur Twitter. Faut savoir qu'à une époque j'étais pas sur Twitter,
ça peut être très très violent Twitter.
Ouais. Et notamment sur les personnes LGBT. Il faut savoir qu'il y a deux lignes politiques LGBT sur Twitter. Il y a la ligne matérialiste et la ligne, je sais pas quoi, libérale. Je saurais pas trop comment expliquer. J'ai jamais trop compris. Et les gens étaient horribles. Alors que, par exemple, deux personnes trans pouvaient s'insulter violemment, tout ça. Alors que, bah merde, elles se prennent déjà assez de violence dans la gueule tous les jours. Et en plus, elles se haïssent elles-mêmes. Mais ça, c'est la plateforme qui veut ça.
Oui.
Mais j'ai halluciné. Et à un moment, il y avait même des propos assez graves sur le suicide et tout ça. C'était assez affreux, quoi. Et à un moment, j'ai été happé par ça. Voilà.
Dans le mauvais sens.
Voilà, c'est ça. Genre, par la toxicité. En fait, le côté haineux de moi que j'ai réussi à dépasser revenait, en fait.
Mmh.
Et les gens étaient horribles, quoi. Et puis même, quand tu dis un truc sur Twitter, c'est parfois, tu dis un truc simple et parfois, c'est déformé et tu te prends une sauce et voilà. Et...
Ça arrive très bien.
Voilà, c'est ça. Et il y a eu le 7 octobre, ensuite. Et ensuite, vu la haine, qui s'en est suivi, j'ai décidé d'aller parce que les gens sont horribles, quoi. Le 7 octobre, c'est des attaques en Israël menées par des groupes armés palestiniens qui ont fait 1200 morts, principalement civils. Alors moi, en tant que personne juive, j'ai été très choqué par ça et attristé. Et en fait, c'est un point de bascule parce que depuis 1948, jamais autant de civils israéliens n'avaient été tués. Et en fait, les réactions des gens m'ont choqué.
Ouais.
Parce que dans les cercles de gauche que je fréquentais, qui étaient déjà très chiants, C'est déjà très toxique. Ah, les gens se sont réjouis de ça. Voilà. Et moi, j'étais pas. J'étais pas là, parce que ça reste un massacre de masse, quoi. Et je trouve ça horrible. Et en fait, les gens commençaient à me calomnier, moi, à insulter une amie que j'aime beaucoup. Et ils nous ont traités de racistes, de fascistes, alors que juste, on ne voulait pas se réjouir d'un massacre de masse.
Oui, bah oui, non, non, non.
Et qu'on était pour la paix. Et je me suis épuisé pendant des mois à juste essayer de mettre de la nuance et à juste essayer de garder le contact avec eux. Et voilà. Et à un moment, on m'a traité de nazi génocidaire juste parce que j'ai dit que je ne pouvais pas me réjouir d'un massacre de masse.
Ouais.
Et à côté, il y a un autre massacre de masse, tu vois. C'est un peu hypocrite, quoi. Et à un moment, on m'a traité de tous les noms et j'en ai eu marre et j'ai juste désinstallé mes réseaux sociaux.
Ouais, qu'est-ce qu'il faut faire?
Voilà.
Dans ces cas-là, franchement, il faut vous préserver, voilà. Parce que ça ne sert à rien.
Et j'en ai eu marre, là, parce que c'est. Parce que je disais pas des choses différentes d'eux, c'est juste que je refusais de me réjouir de ça, quoi.
Oui, ce qui est normal, en fait.
Les gens, ils manquent de nuances, je trouve. Surtout quand t'es jeune. Mais ça, c'est même pas un reproche. Moi, quand j'étais jeune, je manquais aussi de nuances. La nuance, je pense que ça s'acquiert quand tu vieillis un peu plus, quoi.
Ouais. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est le fait de se radicaliser de quelque sorte dans un domaine et d'aller à fond
ouais, voilà, c'est ça.
Pour montrer qu'en fait tu fais partie de ce système-là, quoi.
Et juste, j'ai désactivé mes réseaux sociaux et en fait, finalement, j'ai trouvé un peu une sorte de paix. Ouais. Généralement, je passe deux fois par mois sur les réseaux sociaux et après, je me concentre sur autre chose. Mais j'ai découvert que ouais, les parler aux gens en vrai, je trouve que c'est plus enrichissant parce que t'as pas le truc de l'anonymat et puis même la plateforme qui exacerbe la haine et tout ça. Je sais pas si j'ai encore trouvé ma place, mais je trouve que ça va de mieux en mieux à ce niveau-là. À une époque, je rejetais complètement la société, je voulais pas en faire partie. Et là, bizarrement, j'ai envie d'avoir un appart, de payer mes factures, même d'être une éduquante. Pas une éduquante, genre chante avec les gens, mais une éduque avec un quotidien très chiant.
Ouais, t'as envie d'une routine en fait,
voilà,
un peu confortable.
Parce que ça fait 13 ans que je suis en errance, moi. Alors, pas en errance dans la rue, parce que dans le travail social, en errance, ça décrit surtout des jeunes à la rue. Mais pendant 13 ans, je ne savais pas ce que je voulais faire, je ne trouvais pas ma voie, ma place et tout ça. Donc c'est aussi une forme d'errance. Et là, j'ai découvert ce que je voulais faire. Et rien que ça, c'est génial, parce que là, tu sens que tu pourras avoir ta place dans la société et ne plus être à la marge. Il y a des gens, peut-être, qui aiment être dans cette marginalité-là. Je peux concevoir, moi, je déteste ça.
Ouais, vraiment. C'est plutôt.
C'est à une époque ça m'a.
Ça,
à une époque ça m'a rassuré de pas être comme les autres gens, de pas faire des études et tout ça, mais là c'est même ça fait sourire. Parce que j'ai même pas d'argent pour par exemple si je veux faire les courses, j'ai même pas d'argent, j'ai pas de ressources et tout ça.
Mm-hmm.
Là j'ai vraiment envie de dépasser cette marginalité là. Mm. Voilà.
En fait, t'as envie de prendre ta vie en main et de pouvoir aller là où tu veux parce que tu sais ce que tu veux.
Ouais, c'est ça.
Et pour ensuite avoir des résultats et pouvoir juste avoir une vie un peu.
Mais c'est compliqué. Mais en fait, faire partie de communautés et de groupes humains, ça a du bon. Parce que je trouve que les gens ne sont pas fondamentalement mauvais.
Non, mais c'est sûr.
Et je trouve que même les expériences que j'ai eues cette année me l'ont prouvé. Par exemple, quand j'étais en stage de la prévention spécialisée, quand j'allais voir les personnes qui étaient à la rue, j'avais juste à leur dire que j'avais peur des gens, des chiens, parce que j'ai très peur des chiens, et voilà, ils faisaient attention. Et ça peut paraître anodin, mais moi j'aime bien cette attention, parce que ça prouve que les gens font attention.
Oui, et puis ça montre qu'en fait, c'est pas parce qu'on se connaît pas qu'on a aucune importance pour puis les même. Autres. Enfin, je veux dire, on est tous humains, et je pense qu'on devrait se considérer... les uns les autres, c'est hyper
ça.
Important parce que sans ça ça il se passe rien, quoi.
Mais j'ai croisé une personne que j'accompagnais en stage et du coup elle m'a reconnu après des mois et ça je m'y attendais pas parce que pendant très longtemps j'étais les personnes qui connaissaient mon frère connaissait même pas mon nom. Et du coup, elle me demandait si j'étais de la famille à Samuel. Du coup, mais j'avais pas de nom, j'avais pas de rôle, tout ça, quoi. Et là, le fait qu'on se souvienne de moi et qu'on me reconnaisse, finalement, ça prouve que j'ai dépassé un cap, quoi. Ouais. Que je suis plus ce fantôme que j'étais quand j'avais 16 ans, 17 ans, que ouais, je me suis ouvert aux gens. Donc, ça a du bon, finalement, d'aller vers des groupes humains et tout ça, de resocialiser. Je connais une personne qui déteste les communautés, la notion de communauté et tout ça, parce que souvent, tu te mets dans des cases quand tu es dans une communauté. Et en fait, je suis pas trop d'accord avec lui, parce qu'une identité, c'est toujours plus réel, en fait. C'est-à-dire que je suis trans, je suis juive, j'ai une orientation sexuelle différente, voilà. En fait, tout ça, ça constitue l'identité, c'est toujours plus réel. Et j'aime bien dire ça, c'est-à-dire une case, c'est là où on te met, alors qu'une étiquette, c'est là où tu choisis d'être.
En fait. Okay.
C'est ça. Et okay. J'ai décidé d'appréhender la chose comme ça. Mais aujourd'hui, ouais, j'ai plus envie de m'enfermer complètement dans mes communautés, et juste d'aller vers les gens, d'aller vers des gens complètement différents, et voilà. Parce que, ouais, il y a toujours ce problème, en fait, quand t'es dans une communauté où tu rencontres pas de nouveaux gens et tout ça, et je trouve qu'à la longue, ça fatigue.
Ouais,
et
puis c'est beaucoup plus enrichissant quand même de pouvoir parler à des gens qui viennent d'horizons différents, parce qu'on apprendra toujours plus, même sur toi-même, on discute avec les gens. Tu vois, c'est aussi pour ça que moi, j'ai envie de faire ce podcast et de parler avec plein de gens qui ont vécu des choses hyper différentes, parce que ça m'apprend des choses, c'est enrichissant, et je pense que ça fait juste du bien, en fait, de pouvoir discuter.
Ouais, et quelque part, alors, pour moi, le 7 octobre a eu ce côté positif où j'ai eu un peu cet électrochoc. Et je me disais, ouais, en fait, les communautés où je vais, les milieux où je vais, en fait, c'est rempli de sales cons. Et en fait, j'ai arrêté un peu d'idéaliser ça. Et quand j'ai arrêté un peu d'idéaliser ça, en fait, ma nervosité, mon stress, ma peur, ils ont un peu disparu. Parce que j'ai commencé à considérer les gens comme des gens normaux. Et parfois, il y a des cons, et parfois, il n'y a pas de cons. Et c'est là où j'ai trouvé la paix, finalement.
T'as quasiment répondu à toutes mes questions sans même que je te les pose. Je sais pas si toi, t'as fait le tour un peu de ce que tu voulais dire ou pas. Si on est sur la fin, alors je te demanderais peut-être juste quelles évolutions tu vois pour la suite, ou quels objectifs t'aimerais accomplir, si t'as peut-être des conseils à donner aux gens aussi.
Ouais, alors moi, cet été, je vais partir en séjour inclusif dans les Alpes, où je vais travailler pendant un mois, où je vais m'occuper de personnes handicapées. Là, ce sera adulte. Là, jusqu'à présent, je me suis occupé d'enfants, donc ce sera un peu différent. Ensuite, j'ai prévu de faire beaucoup de bénévolat, parce que j'avais raté mes examens, donc cette année, je ne peux pas faire d'études. Donc, l'idée, ce sera de faire du bénévolat de la solidarité dans la réduction des risques, pour justement avoir un peu plus d'expérience. Voilà. Et je vais retenter l'année prochaine de faire des examens. Voilà. Et en fait, si j'ai un conseil à donner aux gens, surtout aux gens qui étaient un peu timides et tout ça, c'est quand on a une idée en tête, faut pas avoir peur de se lancer, en fait. Parce que justement, quand on est dans l'action, dans le mouvement, ça fait un effet d'émulation. C'est-à-dire que plus tu vas faire des choses, plus tu vas te sentir capable de réussir, et plus tu vas sortir de cet immobilisme, et plus tu vas être un peu plus heureux, quoi.
Ouais, puis j'ai l'impression aussi que plus tu agis, moins tu penses, entre guillemets, donc tu as moins le temps de t'angoisser à te demander, mais est-ce que je vais réussir, est-ce que ça va le faire, est-ce que je fais bien d'aller dans cette direction-là.
Et aussi, dernière chose, faut pas hésiter à demander de l'aide. C'est-à-dire que moi, si j'ai pu aller jusqu'à l'oral l'année dernière et sortir un peu de ma coquille, c'est aussi grâce aux gens que j'ai rencontrés, qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné. Par exemple, le dispo James, et puis même les gens de la station. Moi, je galérais l'année dernière à trouver de l'argent pour payer l'inscription de mes examens. Et j'ai réussi à trouver l'argent aussi grâce à ces personnes.
Okay.
Et je leur suis infiniment reconnaissante, quoi.
Et est-ce que t'es... Parce que du coup, tu parles de gens qui t'ont aidé. Est-ce que t'es allé voir des professionnels de la santé ou pas du tout, par exemple, pour le côté plus phobie sociale, etc.
Ouais. Faut dire qu'en 2022, il m'est arrivé un truc, c'est que j'ai complètement pété un câble et j'ai failli mourir. Et bon, j'ai été à l'hôpital. Voilà, et basiquement, quand t'es à l'hôpital, t'es obligé d'aller voir un psychiatre et tout ça, c'est obligé. Mais aussi à l'hôpital, un truc qui était chouette, c'est aussi la solidarité qui régnait entre les jeunes, en fait. Et ouais, Donc, il ne faut pas hésiter, en fait. Et si on a moins de 25 ans, on peut aller à la maison des ados, qui est complètement gratuite. Et en gros, eux, ils orientent ailleurs. Voilà. Et puis même le CMP, c'est gratuit aussi.
Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le CMP ?
Alors, CMP, c'est Centre Médico-Psychologique. C'est des centres qui sont un peu partout dans Strasbourg. Et en gros, ça permet d'avoir un suivi psy gratuit. Un suivi psychiatrique gratuit. Il y a aussi une assistante sociale. Ils peuvent aussi orienter vers un hôpital de jour. En gros, quand on sort de l'hôpital psychiatrique, souvent, on va dans un hôpital de jour.
Ok.
Voilà.
Ok. Merci.
Il ne faut pas hésiter quoi, à demander de l'aide, à aller voir les structures. Voilà. Parce que tant que c'est gratuit, il faut en profiter, en fait.
Et puis, ils sont aussi là pour ça.
C'est
donc,
ça.
Il ne faut vraiment pas hésiter. Mmh. Est-ce que tu penses avoir fait le tour ?
Moi, je pense que j'ai fait le tour.
Ok. Merci, Nora.
Vous avez écouté En Tête à Tête, un podcast au travers duquel on écoute l'autre pour apprendre à mieux se connaître soi-même.